Les jeunes s'engagent pour le vivre ensemble. L'association Coexister vous présente sa chronique.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette première chronique de la saison avec Radio Judaïca et l'association Coexister Strasbourg. Je me présente, je m'appelle Audrey et je suis actuellement en service civique pour Coexister.
Accompagné de son très cher binôme Alexandre Seyfried, aussi service civique chez Coexister Strasbourg.
Pour commencer, nous allons présenter l'association Coexister. Il s'agit d'une association basée sur le vivre ensemble, la tolérance et l'interconvictionnel. Coexister est née en janvier 2009, après une initiative d'organisation d'un don du sang, visant à faire couler le sang pour la paix plutôt que pour la guerre. Aujourd'hui, l'association a pris de l'ampleur et elle se découpe en trois objectifs.
La rencontre, le dialogue et la sensibilisation.
Le principe, c'est donc de se rencontrer, d'apprendre de l'autre par la rencontre, d'ouvrir un dialogue, et derrière, de sensibiliser les gens grâce à nos expériences.
D'ailleurs, Coexister a une entreprise affiliée appelée Convivencia qui finance en grande partie l'association à son niveau national, et qui, elle, s'occupe de sensibilisation aux faits religieux et à la laïcité dans les entreprises.
Coexister, elle, s'occupe de la sensibilisation dans les collèges et dans les lycées. Le principe, c'est d'interagir avec les gens, pour coexister donc avec les jeunes, et de savoir leur ressenti par rapport à tout ça, et de leur expliquer plus précisément comment vivre ensemble. Et de savoir comment eux réagissent face à ça. La première chose qu'on apprend quand on est à coexister, c'est que dans une sensibilisation, le sensibilisateur apprendra autant que le sensibilisé. Le principe de coexister, c'est de réunir avant tout des gens de toute conviction, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient politiques, ou qu'elles soient spirituelles, tout simplement.
Tout en n'accordant aucune réelle affiliation à aucun organisme politique ou religieux. L'association est strictement neutre et ne comporte au final pas de tendance à l'une ou l'autre affiliation.
Personnellement, quand on m'a demandé où je travaillais ce à quoi correspondait coexister, j'ai dit que tout était dans le nom de l'association. J'en suis plus aussi sûre parce qu'il y a quelques semaines, j'ai voulu expliquer à un de mes proches dans quoi je travaillais et quand j'ai énoncé le nom de l'association, on m'a simplement répondu un « coquoi ». Pour être sûr que tout le monde comprenne du coup et que tout le monde sache ce que signifie coexister, on va faire juste un petit rappel de la signification. D'après le dictionnaire, coexister, ça signifie que deux choses existent simultanément. De choses, de personnes, existent simultanément. On a l'exemple du dictionnaire qui nous dit que l'ancienne et la nouvelle université coexistent. Selon le dictionnaire, ça peut aussi être deux convictions qui existent simultanément, deux ethnies. C'est le deuxième exemple que nous donne le dictionnaire qui est ces deux ethnies coexistent difficilement. À coexister, on est persuadé que les deux ethnies peuvent coexister aussi bien que l'ancienne et que la nouvelle université. Et c'est pour ça qu'on se base sur un principe qui s'appelle la coexistence active.
Et donc, qu'est-ce que la coexistence active ? Bah, déjà, on peut expliquer peut-être ce que ça n'est pas. Et du coup, ce que ça n'est pas, c'est assimiler la personne dans sa culture et dans ses croyances et donc lui faire quitter son ancienne identité. C'est l'affrontement des cultures et des croyances qui peut survenir à des désaccords assez fâcheux que l'on peut voir tout au long de l'histoire. Ce n'est pas non plus l'ignorance de l'autre qui instaure un équilibre, certes plus ou moins stable, mais surtout plus ou moins fragile, où les gens restent dans leur coin et au final, ça n'encourage que les clichés et l'ignorance de l'autre au final.
Pour expliquer ça, on peut prendre un exemple très simple. Deux personnes se rencontrent, personne A, personne B. Personne A aime le football, personne B aime le rugby. La pratique de l'assimilation voudrait que, en rencontrant la personne A, la personne B cesse tout de suite d'arrêter le rugby et se prenne de passion pour le football, comme la personne A. La méthode de l'agressivité voudrait que A et B ne puissent pas se parler autrement que pour se quereller à propos de leur désaccord par rapport à leur sport. La méthode de l'ignorance voudrait que A et B ne puissent pas devenir amis parce qu'ils ne font pas le même sport et donc par conséquent ils s'ignorent et ils se contentent juste de se nourrir des clichés qu'on leur donne sur ceux qui aiment le foot et sur ceux qui aiment le rugby. Le problème effectivement de l'ignorance, c'est que le jour où il y a un contentieux entre A et entre B, eh bien, l'agressivité sera beaucoup plus facilement de mise. À coexister, on privilégie donc la quatrième méthode, la coexistence active. Le principe de la coexistence active, c'est que deux personnes qui se rencontrent vont apprendre à se connaître ensemble et vont s'aider mutuellement dans leur pratique.
Si, par exemple, A aime le football et B le rugby, bah, A va parfois venir au match de B et B parfois au match de A, et même si l'un ou l'autre n'aime pas ça, ils vont respecter ce que l'autre fait.
On peut vous donner quelques conseils, si ça vous intéresse, pour aider à la coexistence. Le premier, c'est de se connaître soi-même. Avant d'aller vers l'autre, il faut aller vers soi. On ne peut pas avoir un rapport équilibré entre deux personnes si l'une des deux ne se connaît pas elle-même.
Il faut aussi être sans prétention, c'est-à-dire que la relation doit être la fin que rechercher au final. Ça devrait être ce que les deux recherchent au final. C'est la relation et pas d'autres raisons qui pourraient pousser à la relation en fait.
Pas de profit personnel, oui, effectivement.
Oui. Il faut ajouter la communication non violente, qui est très utile par rapport à ça. Et donc privilégier l'empathie, la compréhension de l'autre. En apprendre plus sur l'autre aide à cette compréhension et à cette empathie, fatalement.
Oui, le contentieux est plus facile à gérer si les deux parties s'expliquent calmement leurs sentiments et leurs intentions. Le dernier conseil qu'on peut donner, et c'est pas des moindres, puisque c'est le fondement de la coexistence active et par conséquent de coexister, c'est d'oublier les préjugés, de les déconstruire. Il faut éviter les généralisations. Le problème de ces généralisations et de ces préjugés, c'est que ce sont eux qui mènent généralement à la discrimination. On sait qu'il y a 25 motifs de discrimination dans la loi qui sont considérés comme des différences positives dans la coexistence active.
Parmi eux, l'âge, l'ethnie, le handicap, l'apparence physique, filiation et langue autre que le français, l'origine, le sexe, la religion, l'identité de genre, l'orientation sexuelle et l'opinion politique.
C'en est qu'une infime partie, mais ça en donne un bon exemple. Si on devait, je pense, résumer la coexistence active en une phrase plutôt qu'en 100, ce serait le slogan de coexister tout simplement, qui est donc « diversité de conviction, unité dans l'action ». Coexister se base aussi, en dehors de sur la coexistence active, se base aussi sur le principe de laïcité. La laïcité, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, surtout en ce moment, et qui pourtant est très peu connu.
Cette laïcité se fonde sur trois principes fondamentaux, la liberté, l'égalité et la séparation de l'Église et de l'État. Tout ça par rapport évidemment à la loi de 1905. On commence d'abord avec la liberté. Qu'est-ce que la liberté, du coup ?
La liberté, c'est évoqué dans la loi de séparation de l'Église et de l'État. C'est l'article 1 qui dit que la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après et dans l'intérêt de l'ordre public. En fait, ce que dit cette loi plus précisément, c'est que chacun peut pratiquer son culte comme bon lui semble, comme il l'entend, tant que cela n'a pas d'influence sur l'ordre public et sur la sécurité d'autrui.
Ensuite vient l'égalité. C'est-à-dire que tout le monde est... On est tous égaux devant la loi au final. Hein, et le fait de ne pas respecter ou de discriminer quelqu'un pour sa religion.
C'est passible, je crois, 45 000 euros d'amende et 3 ans de prison, c'est ça ?
Oui, et ça fait partie donc des 25 critères de discriminants que l'on aura vu avant du coup.
Donc pour reprendre avec ça, c'est la séparation de l'Église et de l'État.
Oui, qui c'est va la avec loi... sa neutralité, du coup.
Voilà, l'État est donc neutre.
Oui.
C'est l'un des grands débats aujourd'hui, en fait, sur la neutralité. Aujourd'hui, légalement en tout cas, seul l'État se doit d'être neutre.
Oui, chacun sinon peut pratiquer sa religion comme il l'entend, comme le premier point qu'on a évoqué, la liberté.
Pour être plus précis, en fait, la seule chose que dit cette loi, c'est que tous les gens représentant l'État, dans l'exercice de leurs fonctions, n'ont pas le droit d'afficher de signes religieux. Il y a eu un apport fait à cette loi en 2004.
Oui.
Qui demande aux élèves dans l'enceinte de l'école d'avoir une discrétion par rapport à leurs signes religieux. Ils n'ont pas le droit de porter de signes religieux ostensibles.
Et du coup, cette séparation de l'Église et de l'État est aussi visible dans cette loi de 1905. Dans l'article 2, où la République ne reconnaît ni ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Voilà, du coup, c'est quelque chose qui est effectif dans toute la France, sauf en Alsace-Moselle, car c'est la loi date de 1905, et à ce moment-là, l'Alsace-Moselle était sous le régime allemand. Ça, la situation n'a pas changé depuis.
Donc ça, on est encore sous le concordat.
Donc tout débute avec le 9 décembre 1905.
Donc la loi de séparation de l'Église et de l'État.
Il y a eu quelque chose qui a un petit peu chamboulé et qui fait toujours débat actuellement, on en a parlé avant, c'est à la fin de la Première Guerre mondiale, la réintégration de l'Alsace-Moselle en France, qui a eu lieu en 1918. Ceci pose, on va dire, un débat législatif en France par rapport au fait qu'en Alsace-Moselle, les cultes sont toujours subventionnés tant qu'ils font partie du concordat. À ça, on peut faire un petit bond dans le temps et arriver au 4 octobre 1996, où là on change de république, hein, et où la laïcité cette fois-ci est inscrite dans la constitution de la 4ème république. Cette fameuse loi du 15 mars 2004, elle est appliquée aux écoles, collèges et lycées, pour refaire la mise au point, demande des signes discrets. Voilà, ce n'est pas interdiction de porter des signes, c'est qu'ils soient discrets. Tout simplement.
Aux élèves.
Le 25 mars 2007, le gouvernement, cette fois-ci, crée un observatoire de la laïcité chargé d'assister la gouverne. En septembre 2013, le ministre de l'Éducation nationale publie la charte de la laïcité dans l'école. Celle-ci doit être affichée dans tous les établissements scolaires publics, au même titre que le drapeau tricolore. La devise républicaine, liberté, égalité, fraternité et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Elle rappelle les règles du vivre ensemble à l'école et vise à aider une meilleure compréhension des règles. Et du coup, pour arriver au final au plus récent, le 15 mars 2017, voit la publication d'une circulaire sur le respect de la laïcité dans la fonction publique, histoire... de redire ce qui avait déjà été dit, que les fonctionnaires ne doivent porter aucun signe d'affiliation cultuelle.
En fait, si on veut faire un résumé un peu de tout ça, il y a deux grandes lois, entre guillemets, sur la laïcité qui la régissent. Celle de 1905 qui sépare l'Église de l'État et qui ordonne donc à l'État d'être neutre et qui du coup impose à ses agents... dans leur fonction de ne porter aucun signe religieux, quel qu'il soit, ostensible ou non. Et la loi de 2004 qui demande aux enfants une discrétion à l'école, mais simplement une discrétion et pas une neutralité. Pour faire en fait un résumé de la laïcité, pour les citoyens, elle signifie que chacun peut pratiquer son culte. Où qu'il le veuille, quand il le veuille, comme il le veut, comme il le souhaite. Tant que ça ne trouble pas l'ordre public. Pour un élève à l'école, il peut pratiquer sa religion chez lui, mais il doit rester discret à l'école, tout simplement. L'État, quant à lui, se doit d'être parfaitement neutre, donc les agents qui le représentent se doivent de l'être aussi. C'était donc les deux principes fondamentaux de coexister, la laïcité et la coexistence active.
Bien, merci de nous avoir suivis pour cette chronique. Et donc, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle chronique de Coexister.
Les jeunes s'engagent pour le vivre ensemble. L'association Coexister vous présente sa chronique.